Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal, suivi le commentaire.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le ministre des Affaires étrangères assistera à la réunion ASEAN, l'Union européenne. Quatre scientifiques indonésiens ont gagné le prix Abibi. Ministre des Affaires étrangères, il n'y a pas de conflit de frontalière avec la Chine. 90 hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite assisteront à TII 2016. Le café Enrica pénètre le marché international. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, assistera à une réunion ministérielle de l'ASEAN, l'Union européenne, à Bangkok du 13 au 14 octobre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Armanata Nasir, lors d'une conférence de presse jeudi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie a vu la réunion comme un outil important pour l'amélioration de la coopération intra-régionale. L'Indonésie espère que l'Union européenne peut profiter de l'occasion comme une chance à connaître le potentiel qui existe en Asie du Sud-Est. Ceci est une rencontre qui est assez importante. La réunion intra-régionale entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe, et pour l'Indonésie, la réunion est une coopération stratégique. Nous espérons le rôle de l'Union européenne étant plus grand dans la région pour profiter des opportunités et le potentiel qui existe en Asie du Sud-Est. Le directeur de la politique et la sécurité de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Widya Chandra, a dit qu'il y avait quatre principaux programmes qui seront discutés à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et l'Union européenne, à savoir sur le développement récent dans l'ASEAN et l'Union européenne, la direction du futur partenariat ASEAN-Union européenne, le renforcement des relations et le renforcement du partenariat devenu le partenariat stratégique et la discussion sur les questions régionales et internationales. Il a également ajouté que la réunion ASEAN-Union européenne produira deux documents, à savoir la déclaration de Bangkok qui contient l'affirmation de la coopération entre les deux régions et feuille de route contient des plans pour le renforcement de la coopération entre les zones, cela veut dire les deux régions dans le cadre des trois piliers de l'ASEAN. La Fondation pour le développement des ressources humaines en sciences et technologies, ou Yayasan SDM IPTEC, a décerné le prix Habibi à quatre scientifiques qui ont contribué au développement de la science, de la technologie et de la culture de l'Indonésie. Le président de la Fondation Wardiman Joyonegoro, mercredi à Jakarta, a déclaré que le prix Habibi était donné aux individus ou des entités qui sont considérés comme très efficaces et ont contribué à trouver, développer et diffuser diverses activités de nouvelles connaissances et bénéficier de façon significative pour améliorer le bien-être, la justice et la paix. Selon lui, le don de ce prix vise à encourager les chercheurs indonésiens à travailler et développer leurs capacités. En outre, le prix est également destiné a inspiré la jeune génération indonésienne de développer la recherche sur le développement de la science.
Untuk meningkatkan iptek atau inovasi.
Pour développer la science et la technologie ou l'innovation, nous devons donner le prix aux scientifiques. Cela signifie que nous les soutenons. Et deuxièmement, il est sur la source d'inspiration pour la jeune génération. Il y avait 4 lauréats du 18e prix Habibie 2016. Ils sont Hendra Gunawan, Raymond R. Chandrawinata, Tommy Firman et Sapardi Djoko Damono. Wardiman Joyonegoro a également expliqué qu'il y avait 5 critères pour le prix de cette année, à savoir la science fondamentale, la science médicale et la biotechnologie, les sciences de l'ingénieur, les sciences sociales et la philosophie, la culture et la religion. Et le prix d'Abibi est l'un des principaux programmes de la Fondation qui ont lieu depuis 1999 jusqu'à présent. La ministre des Affaires étrangères, Mme Rotem Marsoudi, a déclaré que les exercices militaires sur l'île de Natuna était l'exercice qui a été réalisé en routine par l'armée de l'air de la République d'Indonésie. Les activités similaires ont été menées en 2013. Madame Rotem Marsoudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo de voir les exercices militaires en Kasayuda 2016 dans la région de Natuna, la province des îles de Riau, a déclaré jeudi que les îles de Riau était l'une des nombreuses îles de l'Indonésie qui devaient être renforcées. Le président a déclaré que les îles de l'Indonésie devaient être renforcées. Ainsi, il fait partie de la mise en œuvre de la politique du gouvernement indonésien pour renforcer les îles en Indonésie. Mais le renforcement qui est réalisé sur les îles de Natuna, selon Mme Rotem Marsoudi, n'était pas limité au renforcement militaire. Le gouvernement a également engagé à renforcer les aspects économiques de la société de Natuna. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Plus de 90 hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite se sont inscrits de manière en ligne à travers le Centre de la promotion commerciale de Jeddah pour assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016 à Jakarta du 12 au 16 octobre 2016. Le consul général de la République d'Indonésie à Jeddah, Heri Saripudin, dans un communiqué de presse jeudi, a déclaré que le nombre assez grand était une bonne occasion pour l'augmentation du volume des échanges entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite. L'attaché d'immigration du consul général à Jeddah, Ismoyo, a affirmé que la facilité du processus de visa au consul général à Jeddah fournira la facilité pour les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite qui sont devenus un partenaire de l'Indonésie du Centre de la promotion commerciale de Jeddah dans leur visite d'affaires à l'Indonésie, notamment pour les activités de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016. Le gouvernement de Régence Hendrikan, Sulawesi du Sud, devrait être fier parce que le café arabica des produits naturels de cette région est en mesure de pénétrer le marché international depuis les dernières années. Le chef de service de l'agriculture et plantation d'Hendrikan, Asril Baginda, a déclaré jeudi à Makassar que le café arabica, qui était devenu l'un des plus grands potentiels de cette région, a été exporté vers de nombreux pays, entre autres la Corée du Sud, l'Australie et la Norvège. Il a expliqué que la quantité de la production étant exportée vers ces trois pays ne sont pas trop grands, environ 5 jusqu'à 6 tonnes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre le débat des candidats de président et vice-président des États-Unis dans la perspective des relations étrangères. En raison de la diffusion directe à la télévision privée nationale, les citoyens indonésiens qui sont intéressés par le processus de l'élection présidentielle américaine pourraient regarder les débats du vice-président américain. Les téléspectateurs pourront reconnaître le sénateur de la Virginie du Parti démocrate, Tim Kaine, et le gouverneur de l'Indiana du Parti républicain, Mike Pence, qui représentent respectivement Hillary Clinton et Donald Trump. Aux États-Unis, le débat pour le candidat de vice-président n'a lieu qu'une fois, alors que le candidat à la présidence est trois fois. Dans le débat, les deux candidats de vice-président, chacun a défendu son candidat à la présidence et marginalisé d'autres. Ils ont également attaqué les uns des autres dans une série de sujets allant de l'avortement à l'attitude de la Russie. La question est, ce qu'il est important de suivre le débat de candidats du vice-président des États-Unis pour ceux qui ne sont pas citoyens des États-Unis? La réponse est seulement comme référence. En fait, ce qui est plus important, si l'un d'entre eux accompagnera le président américain pour les quatre prochaines années. Comme nous le savons, les deux candidats à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton et Donald Trump, ont plus de 70 ans. Bien sûr, tous les deux ont été testés et leur état de santé est bon. Mais si quelque chose arrive au président américain qui est en service pour quatre prochaines années, le vice-président agira à poursuivre les fonctions présidentielles, y compris le poste de commandant des forces armées des États-Unis et la politique étrangère. Dans cette perspective, le rôle du vice-président américain dans les quatre prochaines années est très important et stratégique. À cet égard, le récent débat des candidats de vice-président des États-Unis n'a pas été intéressant, mais la vision et la mission du président est plus importante, en particulier en ce qui concerne la politique étrangère, en particulier pour l'Asie et plus particulièrement à propos de l'Indonésie. Qu'est-ce que le candidat à la présidence des États-Unis et vice-président exposé pourrait être noté temporairement qu'en général, la politique étrangère de Washington ne changerait pas du tout? Les États-Unis procéderaient à la coopération étrangère en se concentrant sur les intérêts des États-Unis. Sur la base de sa vision et de la mission, Hillary Clinton sera plus modérée dans les relations des États-Unis avec d'autres pays, à la fois les pays qui ont été des bons partenaires de la coopération et plusieurs pays qui sont considérés comme moins favorables à Washington. Dans cette perspective, le véritable processus d'élection du président et vice-président et qui sera élu devient pertinent et important pour l'Indonésie. Serge Rita, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous. Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis de l'antenne, bonsoir. Voici donc la mise au point et pour le titre, le prix du gaz industriel devrait être abaissé. Le président Joko Widodo a demandé de diminuer immédiatement le prix du gaz industriel. La diminution des prix du gaz contribuera à accroître la compétitivité des industries nationales. Comme l'a déclaré le président Joko Widodo dans une réunion à huis clos pour discuter du prix du gaz pour l'industrie dans le bureau présidentiel Jakarta mardi le 4 octobre 2016. Il a dit que le prix du gaz naturel au secteur industriel en Indonésie est très élevé par rapport aux pays voisins. En moyenne, le prix du gaz en Indonésie est 9,5 millions de dollars américains par million de metric tonnes de l'unité thermique britannique ou MMBTU. De plus, il y a des zones dont le prix du gaz pour l'industrie a atteint 12 dollars américains par MMBTU. Pendant ce temps, le prix du gaz au Vietnam est seulement 7 dollars américains. La Malaisie et Singapour sont seulement 4 dollars américains. En fait, l'Indonésie est un grand pays producteur de gaz. Les réserves de gaz naturel sont également très riches. En revanche, les pays voisins sont classés comme un importateur de gaz. Cela doit être amélioré parce que les implications sont grandes sur la capacité de la compétitivité industrielle de l'Indonésie, en particulier l'industrie qui rend le gaz comme combustible. Si l'Indonésie ne peut pas ajuster le prix du gaz pour l'industrie qui utilise le gaz comme pétrochimie, la céramique, textile, engrais et acier, il est redouté que les produits nationaux deviennent moins compétitifs. Le président a confirmé, pour encourager la qualité et la quantité des produits en Indonésie, a besoin d'un soutien aux industries que l'un d'entre eux par le biais des prix du gaz bon marché. Le chef du conseil de coordination des investissements, Thomas Lembong, a admis, jusqu'à présent, le prix élevé du gaz s'est plaint de nombreuses industries. Cela a fait les investisseurs qui veulent faire les affaires en Indonésie se sont abstenus d'investir dans le secteur industriel. Donc, si la diminution de ce prix est réalisée, cette mesure aura certainement un impact meilleur pour l'industrie de l'investissement qui utilise le gaz. Pendant ce temps, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartanto, a confirmé la nécessité de l'amélioration de régulation dans un effort pour diminuer le prix de l'industrie dans le pays. Airlangga Hartanto a expliqué mardi que l'amélioration de cette régulation sera effectuée par le ministère de la Coordination des Affaires économiques, le ministère de Coordination maritime, le ministère de l'Industrie et le ministère des Finances qui évaluera plus détaillé à partir de double effet jusqu'au revenu potentiel de l'État. Airlangga est optimiste. Les améliorations réglementaires peuvent être achevées avant la fin de novembre 2016. Ainsi, l'objectif du prix du gaz industriel concurrentiel en tant que moteur de l'économie nationale peut être atteint comme président souhaité, à savoir au-dessous de 6 dollars américains par MMBTU. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir.
La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, assistera à une réunion ministérielle de l'ASEAN de l'Union européenne à Bangkok du 13 au 14 octobre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Monsieur Armanata Nasir, lors d'une conférence de presse jeudi à Jakarta, a déclaré que l'Indonésie a vu la réunion comme un outil important pour l'amélioration de la coopération intra-régionale. L'Indonésie espère que l'Union européenne peut profiter de l'occasion comme une chance à connaître le potentiel qui existe en Asie du Sud-Est. Ceci est une rencontre qui est assez importante. La réunion intra-régionale entre l'Asie du Sud-Est et l'Europe, et pour l'Indonésie, la réunion est une coopération stratégique. Nous espérons le rôle de l'Union européenne étant plus grand dans la région pour profiter des opportunités et le potentiel qui existe en Asie du Sud-Est. Le directeur de la politique et la sécurité de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, Widya Chandra, a dit qu'il y avait quatre principaux programmes qui seront discutés à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et l'Union européenne, à savoir sur le développement récent dans l'ASEAN et l'Union européenne, la direction du futur partenariat ASEAN-Union européenne, le renforcement des relations et le renforcement du partenariat devenu le partenariat stratégique et la discussion sur les questions régionales et internationales. Il a également ajouté que la réunion ASEAN-Union européenne produira deux documents, à savoir la déclaration de Bangkok qui contient l'affirmation de la coopération entre les deux régions et feuille de route contient des plans pour le renforcement de la coopération entre les zones, cela veut dire les deux régions dans le cadre des trois piliers de l'ASEAN. La Fondation pour le développement des ressources humaines en sciences et technologies, ou Yayasan SDM IPTEC, a décerné le prix Habibi à quatre scientifiques qui ont contribué au développement de la science, de la technologie et de la culture de l'Indonésie. Le président de la Fondation Wardiman Joyonegoro, mercredi à Jakarta, a déclaré que le prix Habibi était donné aux individus ou des entités qui sont considérés comme très efficaces et ont contribué à trouver, développer et diffuser diverses activités de nouvelles connaissances et bénéficier de façon significative pour améliorer le bien-être, la justice et la paix. Selon lui, le don de ce pays vise à encourager les chercheurs indonésiens à travailler et développer leurs capacités. En outre, le prix est également destiné à inspirer la jeune génération indonésienne de développer la recherche sur le développement de la science.
Untuk meningkatkan IPTEK atau inovasi.
Pour développer la science et la technologie ou l'innovation, nous devons donner le prix aux scientifiques. Cela signifie que nous les soutenons. Et deuxièmement, il est sur la source d'inspiration pour la jeune génération. Il y avait quatre lauréats du 18e prix Habibi 2016. Ils sont Hendra Gunawan, Raymond R. Chandrawinata, Tommy Firman et Sapardi Djoko Damono. Wardiman Joyonegoro a également expliqué qu'il y avait cinq critères pour le prix de cette année, à savoir la science fondamentale, la science médicale et la biotechnologie, les sciences de l'ingénieur, les sciences sociales et la philosophie, la culture et la religion. Et le prix d'Habibi est l'un des principaux programmes de la Fondation qui ont lieu depuis 1999 jusqu'à présent. La ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a déclaré que les exercices militaires sur l'île de Natuna était l'exercice qui a été réalisé en routine par l'armée de l'air de la République d'Indonésie. Les activités similaires ont été menées en 2013. Mme Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo de voir les exercices militaires en Kasayuda 2016 dans la région de Natuna, la province des îles de Riau, a déclaré jeudi que les îles de Riau était l'une des nombreuses îles de l'Indonésie qui devaient être renforcées. Le président a déclaré que les îles de l'Indonésie devaient être renforcées. Ainsi, il fait partie de la mise en œuvre de la politique du gouvernement indonésien pour renforcer les îles en Indonésie. Mais le renforcement qui est réalisé sur les îles de Natuna, selon Mme Retno Marsudi, n'était pas limité au renforcement militaire. Le gouvernement a également engagé à renforcer les aspects économiques de la société de Natuna. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Plus de 90 hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite sont inscrits de manière en ligne à travers le Centre de la promotion commerciale de Jeddah pour assister à l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016 à Jakarta du 12 au 16 octobre 2016. Le consul général de la République d'Indonésie à Jeddah, Heri Saripudin, dans un communiqué de presse jeudi, a déclaré que le nombre assez grand était une bonne occasion pour l'augmentation du volume des échanges entre l'Indonésie et l'Arabie Saoudite. L'attaché d'immigration du consulat général à Jeddah, Ismoyo, a affirmé que la facilité du processus de visa au consulat général à Jeddah fournira la facilité pour les hommes d'affaires de l'Arabie Saoudite qui sont devenus un partenaire de l'Indonésie du Centre de la promotion commerciale de Jeddah dans leur visite d'affaires à l'Indonésie, notamment pour les activités de l'exposition commerciale de l'Indonésie 2016. Le gouvernement de Régence Hendrikan Sulawesi du Sud devrait être fier parce que le café arabica des produits naturels de cette région est en mesure de pénétrer le marché international depuis les dernières années. Le chef de service de l'agriculture et plantation d'Hendrikan, Asril Baginda, a déclaré jeudi à Makassar que le café arabica, qui était devenu l'un des plus grands potentiels de cette région, a été exporté vers de nombreux pays, entre autres la Corée du Sud, l'Australie et la Norvège. Il a expliqué que la quantité de la production étant exportée vers ces trois pays ne sont pas trop grands, environ 5 jusqu'à 6 tonnes. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Pour la boucle suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons présenter l'île de Sangyang, située à Banten, Java West. Sangyang est une petite île située dans le détroit de la Sonde, entre Java et Sumatra. Administrativement, cette île appartient au district de Serang en province de Banten. L'île de Sangyang est un parc de tourisme naturel qui offre de nombreuses beautés du tourisme nautique à Banten. Sa superficie est d'environ 720 hectares et elle dispose de plusieurs plages offrant un écosystème sous-marin magnifique. C'est pour cela qu'elle a été baptisée l'une des sept merveilles de Banten. Si vous voulez aller à Sangyang, vous pouvez commencer le voyage de Jakarta vers la ville de Cilegon et puis de continuer vers Anyer, ce qui prend d'environ 3 heures par l'autoroute. Ensuite, il faut traverser en bateau à partir de la plage de Manuk à Anyer. La traversée dure environ 1 heure. À l'arrivée sur l'île, vous sentirez l'air frais, car il y a beaucoup d'arbres verts et feuillus. Sangyang dispose également d'une plage de sable blanc propre et des eaux de mer claire. Vous pouvez pratiquer une variété d'activités sur la plage de l'île de Sangyang, entre autres des sports nautiques ou simplement vous détendre sur la plage. Comme par exemple, vous pouvez effectuer les sports tels que le cross-country, l'escalade, le camping, photographier. Et pour profiter au mieux du panorama de la plage, allez sur le côté nord-ouest ou au sud de l'île de Sangyang et au long de la plage de Batu Mandi et le Mont Gede. Cette région est une zone touristique naturelle passionnante, soutenue par divers contours de terrain. Les touristes peuvent également profiter d'une vue panoramique sur la grotte abritant des centaines de chauves-souris. Dans les eaux autour de la grotte, il peut parfois sembler qu'un essaim de ricoins attende d'une chauve-souris tombe sur leur service de repas. Que vous soyez amateur de plongée sous-marine, de plongée en apnée, de bain de soleil, de pêche, de navigation, de plaisance, vous pouvez apprécier la beauté des récifs coralliens et des parcs marins avec un bateau à fond de verre, ou aller vers la zone de Tanjung Raden ou celle de Legon Waru et admirer les eaux de l'océan du Sud qui baignent l'île de Sangyang. Outre d'apprécier le tourisme nautique, vous pouvez également profiter d'une visite historique. Allez à la zone autour du poste de la Marine nationale indonésienne. Là-bas, vous pouvez encore voir des vestiges de la Seconde Guerre mondiale, comme des canons défendant la forteresse militaire japonaise construite pour protéger le détroit des attaques des forces alliées. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta sur l'île de Sangyang située à Banten, Java West. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici l'Indonésie en couleur et en pour titre, l'innovation électrique pour la rede de bus Trans Jakarta. Chers auditeurs, pour le peuple indonésien, en particulier les personnes qui font les activités à Jakarta, connaît bien Trans Jakarta, communément appelé Busway. Trans Jakarta est conçu comme le transport en commun soutenant les activités dans la capitale. À chaque arrêt de trans, les passagers sortent ou entrent dans l'arrêt de trans par le port tourniquet de trois pieds ou le port tourniquet. De cet outil, les deux étudiantes de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie ont remporté le deuxième champion du monde dans la compétition Go Green City Schneider Electric en 2016 pour représenter l'Indonésie à Paris. Elles sont Nabil Astari et Stéphanie Rawi. Ces deux étudiantes ont créé avec succès Drop Lock Turnstile Gate. Drop Lock Turnstile Gate est un concept de production d'énergie électrique à partir de la mobilité des personnes qui ont passé à travers le port tourniquet de trois pieds sur un arrêt de bus Trans Jakarta. Ce concept se concentre sur les opportunités de l'efficacité énergétique qui peuvent être obtenues en utilisant le mouvement de personnes qui prennent Busway lorsqu'ils tapent la carte d'entrée ou de sortie de l'arrêt de Busway en énergie électrique qui pourrait répondre aux besoins en électricité à cet arrêt de bus. Ce concept est placé dans une boîte de taille moyenne dans laquelle il existe des systèmes mécaniques afin d'optimiser l'acquisition d'électricité. Ce système mécanique est installé et placé dans une porte tournante à trois pieds à générer de l'énergie au générateur et à la convertir en énergie électrique. Chers auditeurs, Selon Nabila, après le calcul, les deux étudiantes qui sont incluses dans l'équipe de SCRAF de l'Université de Tunisie ont obtenu des résultats. Si cet outil est appliqué, il est capable de générer l'électricité jusqu'à 15 kW par jour. Cela signifie que l'énergie électrique sera en mesure de soutenir le dispositif de la lecture de cartes utilisée pour lire les cartes d'entrée ou de sortie des passagers. Tandis que le reste de l'énergie électrique qui est produit peut également être utilisé pour charging spot, la télévision, les lumières et pour allumer l'électricité à un arrêt de Bassouer. Nita Herawati, comme directeur de ressources humaines de Schneider Electric Indonésie, a expliqué « La clé de la victoire de l'équipe de SCRAF réside dans l'originalité des idées, la conformité des aspects de l'énergie respectueuse de l'environnement et l'état de préparation de l'outil à mettre en œuvre. » Nita a ajouté « La victoire de l'équipe de SCRAF montre que la jeune génération de l'Indonésie a la capacité d'innover et de créer la percée pour créer la vie urbaine qui est meilleure et intelligente, en particulier en termes d'efficacité énergétique. » Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir avec le titre « L'innovation de l'électricité pour l'arrêt de Transjakarta ». Demain, nous nous rencontrerons avec le sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique des musiques. Et cette fois, nous avons déjà sélectionné des chansons de dangdut chantées par Denis Malik, un chanteur, chorégraphe et acteur indonésien. Il est né d'une famille noble du royaume Indrapura, la côte sud Sumatra-Ouest. Et chers amis, on va écouter la première chanson intitulée « Gadisku Sandiwara ». Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous êtes en train d'écouter notre programme de musique indonésienne chanté par Denny Malik. C'était la première chanson de dangdut intitulée Gadisku Sandiwara chantée par Denny Malik. Il a commencé sa carrière dans l'industrie de la musique à travers les musiques pop. En 1989, il a sorti un album pop intitulé Jak Jak Jakarta. Avant de faire son activité comme chanteur, il a réussi de devenir un chorégraphe professionnel. Son succès dans ce domaine ne lui est pas satisfait et alors il a décidé d'explorer son talent comme chanteur. Son succès de sortir le premier album a ouvert la possibilité de ressortir un album intitulé Putri Impian en 1993. Bon, chers amis, écoutons maintenant la deuxième chanson de Denny Malik, intitulée Gadisku.
Kamu cinta berbuta rindu.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Gadisku, chantée par Denny Malik. À la fin de l'année 2002, Denny a publié un album de dangdut intitulé La Fumée d'Amour et il a reçu le prix AMI pour la catégorie Un chanteur de dangdut. Bon, chers amis, avant de terminer cette émission, on va écouter les deux dernières chansons intitulées Tiada Berdaya et Ku Sesali, tous les deux chantées par Denny Malik. Merci à tous et à bientôt.
Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.cr. www.rti.co.id. Toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
masak. Kalau tak ada yang memasak, tak mungkin dapat terbakar. Kalau memang kau tak menyiram, jangan ada prasangka. Kalau memang kau tak merasa, jangan ada curigamu, bisa jadi bencana. Bencana cinta kita, bencana asmara berdua. Tak mungkin ada asap kalau tak ada yang memasak. Kemarin kau tinggalkan aku, kemarin kau putuskan aku. Namun aku tetap tabah walaupun kecewa. Menduakan kasih kita bisa jadi merana. Bencana cinta kita, bencana asmara.
Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.